Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur La Route Inconnue, le magazine bimensuel de Radio Grand-Ciel entièrement dédié à l'édition poétique contemporaine. La Route Inconnue est, je vous le rappelle, réalisée en partenariat avec nos amis de la revue trimestrielle de poésie Décharge, dont vous retrouverez l'un des chroniqueurs en seconde partie d'émission. Je veux parler du talentueux Claude Verset. Vous aurez aussi le plaisir d'écouter les contributions de Cécile Guivarch et Patrick Jokel. Sans plus tarder, notre invitée de la quinzaine, elle s'appelle Manda, elle est peintre, calligraphe, spécialiste des trois genres traditionnels japonais que sont le sumi-e, le dessin à l'encre, la calligraphie et le haïga. C'est de ce dernier genre qu'il sera plus spécialement question aujourd'hui, car il marie dans un même geste l'art graphique et le haïku. Pour situer le niveau de compétence de Manda, bien il me suffira de vous préciser qu'elle enseigne son art non seulement en France, mais aussi au Japon, où elle expose depuis de nombreuses années. Parallèlement à son travail en atelier, Manda publie des livres. On peut citer notamment aux éditions Synchroniques et en deux tomes des haïkus et notes de voyage de Matsuo Basho, et dernièrement, des haïkus du bout du monde de Ozaki Osai, un grand maître mais aussi un grand réformateur du haïku au tout début du XXe siècle. Je vous lirai d'ailleurs tout à l'heure des poèmes extraits de ce livre Haïku du monde, mais tout d'abord, bienvenue sur La Route Inconnue, cher Manda.
Ok.
Alors, avant d'évoquer le livre d'Osai que vous avez non seulement illustré mais traduit, comment êtes-vous arrivé au Japon? Comment êtes-vous arrivé à découvrir le sumi-e et les autres arts dont j'ai parlé en début d'émission?
Oui. Alors, déjà, je vais relater des faits, mais je ne vais pas toujours pouvoir les expliquer, parce que il y a vraiment une part d'inconnu extrêmement importante dans mon cursus. Tout d'abord, en 85, je me souviens, c'était une des rares nuits d'insomnie, j'en ai peut-être eu deux ou trois dans toute ma vie, donc vraiment, c'est exceptionnel. J'ai déambulé devant ma bibliothèque et je me souviens très bien qu'en prenant un livre de Marcel Béalut qui s'appelait L'araignée d'eau, qui est un très très beau conte fantastique, j'ai eu l'idée, mais vraiment brutalement, je me suis dit, il faut que j'aille au Japon. Et ça m'est apparu comme une nécessité, une urgence. Alors ça, par contre, je suis totalement incapable de l'expliquer.
Ah ça, c'est incroyable, oui.
Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas le dire. Tout ce que je savais, c'est qu'il y avait quand même déjà quelques stigmates de cet intérêt pour ce pays. J'ai fait des bonsaïs sans savoir que c'était des bonsaïs. J'ai mis des pas japonais selon la stricte conception de cet agencement sans savoir que c'était des pas japonais. Voilà, donc c'est des phénomènes qui sont un peu surprenants, mais que je peux difficilement voir, je suis incapable d'expliquer. C'est, voilà. Alors je suis donc allée au Japon, et quand je suis arrivée au Japon, ce pays m'est apparu comme un pays que je connaissais depuis toujours. Je n'ai pas été surprise, tout ce que je voyais me paraissait, tout ce que je vivais me paraissait très naturel. Voilà, ça non plus, je ne peux pas l'expliquer.
Vous étiez chez vous, finalement, vous veniez de rentrer chez vous.
Tout à fait, c'était, d'ailleurs, c'est devenu, à partir de ce jour-là, c'est devenu, et ça reste, mon deuxième pays. C'est comme ça. Mais je vous dirai plus tard, il y a quand même un ami japonais, parce que forcément, j'ai fait des expositions au Japon qui ont interpellé les gens de l'archipel, parce que comment une Européenne peut comprendre, traduire des choses aussi particulières que l'esprit du sumi-e, enfin ces choses-là. Et j'ai un ami qui était aussi un mécène qui un jour a pris la parole et a dit « Mais écoutez, de toute façon, Manda était japonaise dans une autre vie. »
Ah, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous croyez en leur réincarnation? Parce que là, vraiment...
Alors, je peux pas... Oui, y a, bien sûr, il y a des signes qui me font penser qu'il a peut-être raison, vous voyez, mais je ne peux pas le certifier. D'ailleurs, je ne m'étais jamais posé la question. C'est lui qui a évoqué cette possibilité, enfin cette certitude même. Et du coup, ça a vraiment, comment dirais-je, rassuré.
Oui.
Du coup, tous les Japonais ont trouvé ça normal que je fasse du sumi-e, que je m'intéresse à la poésie japonaise, que enfin, voilà. Alors qu'au début, j'étais quand même la bête curieuse quand même. Ouais. On m'a fait passer des tests à mon insu. D'ailleurs, j'ai compris bien plus tard que c'était des tests pour savoir si c'était vraiment moi qui pratiquais. Ah, oui. Enfin, voilà, alors, sous couvert de rendre service, de faire un croquis pour le journal, pour le lendemain, enfin, etc., où on m'enfermait dans une pièce avec toutes sortes de matériel où je ne pouvais pas dire « Ah, je suis désolée, je ne peux pas parce qu'il me manque ci ou me manque ça ». Et voilà, et je me disais, moi sur le coup j'ai compris qu'il veillait à ma tranquillité, qu'il voulait que je... c'était peut-être aussi en partie vrai, mais a posteriori, je pense qu'il y avait quand même là derrière des tests, il voulait quand même savoir si c'était bien moi qui œuvrais et pas, ouais, si j'avais pas quelque part des gens qui travaillaient pour moi. Voilà, alors ça c'est le début de ma rencontre avec ce pays. Ensuite, deuxième étape importante, c'est que j'ai rencontré un maître qui s'appelle donc Yamada Masaoki, qui a aujourd'hui 96 ans et que j'ai vu là encore au mois d'avril, où j'étais au Japon, et que je vais revoir, tout du moins je l'espère, cet automne, parce que nous avons un projet ensemble, il voudrait que nous allions ensemble à Koyasan, donc voir les temples de du bouddhisme Shingon. Donc oui, j'ai dit oui parce qu'il a 96 ans et que c'est un homme que je respecte énormément. Ça veut dire que je le connais depuis 85 et on est en contact, on travaille ensemble depuis 1985. Donc c'est un père spirituel. Enfin, il fait partie de ma famille. Enfin, vous voyez ce que c'est. Il m'a tout appris beaucoup sur le Japon. Et en tout cas, il m'a donné des chemins à suivre. Il m'a initié à certaines démarches. Et je lui en suis évidemment infiniment reconnaissante. Et ce maître, Yamada, m'a dit... Alors, je lui ai montré ce que je faisais. Je faisais de la peinture occidentale, au départ. Et donc, je lui ai montré ce que je faisais. Il m'a montré ce qu'il faisait aussi. Et il m'a dit, vous devriez faire de la peinture japonaise. Je me suis dit, cet homme est vraiment bizarre. Mais j'ai compris, et il n'y a pas longtemps, pourtant ça remonte à 85, vous voyez, et il n'y a pas longtemps que j'ai compris pourquoi il m'avait dit ça.
Pourquoi vous a-t-il dit ça?
Parce qu'en fait, je pratiquais les plans, je ne pratiquais pas notre perspective occidentale. D'accord. Je pratiquais une perspective extrême orientale, mais je ne le savais pas. C'est après beaucoup de réflexions, d'essais, j'ai compris que je me disais, bah oui, bien sûr, évidemment. Mais tout ça a posteriori. Hein. Et en fait, cette incitation à me tourner vers la peinture japonaise arrivait à un moment où moi-même, j'avais envie de rompre avec un académisme occidental un petit peu pesant. C'était un art un peu... parfois un peu trash, où il y avait du sexe, du sang, enfin des choses qui pour moi sont des sujets aux antipodes de la fonction de l'art. Pour moi, je précise bien qu'il s'agit que de moi. En tout cas, moi, je me sentais pas très bien dans ce monde occidental, pictural occidental. Donc cette proposition de me tourner vers la peinture japonaise, évidemment, a fait son chemin. Donc j'ai commencé à pratiquer, et puis ensuite, toujours Yamada Sensei m'a dit « Ah ben maintenant il faut faire de la calligraphie ». Ah bon, bah très bien, s'il faut faire de la calligraphie, je fais de la calligraphie. Et j'ai donc fait des haïga, mais sans savoir que c'était des haïga.
C'était des haïga.
Figurez-vous que j'imaginais avoir trouvé toute seule un nouveau moyen d'expression graphique, ce qui est quand même un comble. Et je me suis dit, je vais... Parce qu'on correspondait, on travaillait aussi beaucoup par correspondance, bien sûr. Et je lui envoyais des réalisations que j'ai faites, enfin, etc. Et il me répondait, Aïga par-ci, Aïga par-là. Et en fait, j'ai trouvé toute seule ce moyen d'expression qui existait depuis des lunes. Hein.
Oui.
Donc, c'est encore une fois un peu curieux. Et alors du coup, quand on fait de la calligraphie et qu'on fait les haïga, on se sent un petit peu obligé de se tourner vers la langue japonaise. Ouais. Forcément, parce que calligraphier un texte, c'est quand même mieux si on peut le comprendre. Ouais. Parce que finalement, la calligraphie, c'est quoi? C'est une interprétation d'un texte. Tout comme le musicien a une partition qu'il interprète.
Ouais.
C'est un peu ça relève du même principe. Alors, il faut évidemment apprendre la langue et toutes ces difficultés.
Qu'ils sont nombreuses, évidemment.
Qui sont nombreuses. Déjà, il y a une complexité de la structure sociale japonaise. Cette structure est verticale. Elle est honorifique. Et donc, pour un occidental, c'est vraiment, c'est un passum, quoi. On a vraiment 90, je dirais, chances pour 100 de commettre une erreur en termes de politesse, vous voyez. Donc, c'est horrible, je veux dire. C'est parce que dès qu'on ouvre la bouche, on est susceptible, dans les secondes qui suivent, de sortir quelque chose d'incongru. Donc, c'est horrible. Et la langue, bien évidemment, la langue japonaise est tout à fait fait pendant à cette structure sociale. Donc la langue japonaise est elle-même construite à base de, on dit que c'est une langue agglutinante, hein, les verbes à la fin de la phrase, et ben il y a des formes de politesse qui s'emboîtent au passé ou au présent, au passé ou désidératif, au doloratif et au je ne sais quoi. Donc c'est horrible, enfin je veux dire. Voilà, il y a un deuxième domaine de la langue japonaise qui est la langue, on va dire, la langue familiale. Donc où on ne conjugue pratiquement pas les verbes, etc. Mais bon, moi je n'ai pas de famille au Japon, donc je n'étais pas non plus autorisée à utiliser cette forme-là, cette forme linguistique-là. Et alors enfin, j'ai trouvé un domaine où je me sentais bien, il n'y avait pas de structure sociale, il n'y avait pas de famille, c'est la poésie.
C'est la poésie.
Et là, je me suis dit, ouf! Parce que j'aime beaucoup cette langue, j'aime les sonorités, j'aime les constructions de la phrase avec le verbe à la fin. Bon, j'ai fait beaucoup d'allemand dans ma jeunesse, donc évidemment j'ai retrouvé ces structures de phrases qui sont révélatrices d'ailleurs de structures mentales, aussi bien chez les Allemands que chez les Japonais. Et donc, eh bien oui, donc cette poésie, du coup, comme je m'y sentais très bien, eh bien j'ai eu envie de la traduire. Voilà, c'est venu un petit peu tout naturellement. Ouais. Et alors cette traduction, en fait, m'a fait découvrir une chose extrêmement importante, c'est que le fait de connaître plusieurs langues étrangères, il se trouve que je connais l'allemand, je connais l'anglais, je connais le japonais, eh bien c'est important pour comprendre sa propre langue, sa langue maternelle. J'encouragerais vraiment tous les enfants de la Terre à pratiquer plusieurs langues.
Oui.
Parce que c'est d'une richesse, ça éclaire sa propre langue de nouvelles lumières, de nouvelles compréhensions, de nouvelles approches. Et là, j'ai découvert, par exemple, que le synonyme, en tant que tel, n'existe pas.
Tiens donc.
Il n'y a pas deux mots qui correspondent exactement à la même chose. Oui. Voilà, donc ça, alors qu'on vous parle de synonymes pendant tout votre parcours scolaire, mais en fin de compte, ça n'existe pas. Bon. Et puis, il y a aussi une chose que j'ai découverte, c'est que la place des mots dans la phrase change le sens. Et ça aussi, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. On vous dit, on peut faire, mais d'accord, on peut faire, mais avec des nuances, et que le résultat n'est pas identique. Si je dis, demain, je vais faire des courses, ou bien, je vais faire des courses demain, c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose.
Il y a des nuances. Il y a des nuances de probabilité, de certitude, enfin, etc. Voilà. Donc, ça, c'est une expérience qui a enrichi ma propre langue maternelle. Et j'en suis très contente. C'est pour ça que j'insiste. J'ai un petit-fils, par exemple, qui est déjà trilingue et qui vient de là. Je l'ai emmené au Japon avec moi au mois d'avril et il commence à apprendre le japonais. Donc, c'est sa quatrième langue.
Oui. Et c'est une pratique finalement, c'est en pratiquant le haïku, on comprend aussi à quel point, le haïku il y a très peu de mots, à quel point la place du mot est importante pour produire un effet.
Absolument.
Oui.
Et même des choses inutiles comme les articles, je viens de lire là il n'y a pas longtemps parce qu'une de mes élèves m'a soumis un texte, la lanterne du jardin est éteinte, le vent souffle à travers les bambous. Je suis désolée, mais ça, c'est pas de la poésie. Non, c'est pas souffle, c'est traverse, pardon. Le vent traverse, non, c'est même pas les bambous, c'est les bananiers. Voilà. Et je me dis, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est quoi? C'est des segments de prose, mais ça n'est pas de la poésie.
Oui.
Alors déjà, la lanterne du jardin, quand on traduit taureau, c'est obligatoirement une lanterne de jardin. Alors, je veux bien que pour un Français non initié, on dise la lanterne du jardin. Mais en même temps, si on dit lanterne du jardin éteinte, on n'a pas besoin du verbe, on n'a pas besoin de l'article. C'est déjà autre chose. Enfin, au point de vue sonore, au point de vue... Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Et le vent traverse les bananiers. Non, le bruit du vent. Dans le texte, la traduction, c'est le bruit du vent traverse les bananiers. Moi, je dis le souffle du vent traverse les bananiers.
Ouais.
C'est, avec souffle, on a les deux idées de son et de mouvement.
Et de mouvement, oui.
Bon, alors... Je veux pas m'en prendre à ces traducteurs, mais quand on lit des choses comme ça, on n'a qu'une envie, c'est traduire soi-même. En tout cas, en ce qui me concerne.
Oui, et puis la traduction du haïku me semble-t-il, fait énormément de progrès depuis, par exemple, René Siffert, qui a été le premier, par exemple, à traduire le...
Oui, bien sûr.
On a beaucoup progressé depuis René Siffert, je trouve, non?
Ah oui, bien sûr. Bah, René Siffert, de toute façon, moi, j'ai lu le Diyu Genji dans sa traduction.
Ouais.
Mais c'est horrible, quoi. Ouais. Quand on arrive au bout d'un paragraphe, on partir au début du paragraphe, parce que il a fait un travail, mais incroyablement précis, difficile, enfin, vraiment. Mais au détriment de la compréhension. C'est que, à force de respecter le français de l'époque du Genji, c'est-à-dire le 11e siècle, eh ben, on arrive au bout du paragraphe, on n'a rien compris, il faut recommencer au début. Donc, c'est un peu pénible. Et je vous assure que lire tout le Genji traduit par Siffert, c'est horrible, quoi. Mais enfin, bon, quand il y en avait pas d'autres à l'époque, hein, donc,
ouais.
Voilà. Et donc, en fait, j'ai approché la peinture japonaise un petit peu comme le haïku.
Comme le haïku. Ouais.
Un petit peu de la même façon. Le sumi-ie surtout, mais aussi la peinture japonaise traditionnelle dans son ensemble. Ça m'a été assez facile parce que le sumi-ie surtout. Offre tout ce que la peinture occidentale ne propose pas.
Ouais. Vous dites qu'elle permet d'écrire une peinture.
Ouais, absolument. D'ailleurs, ouais. En japonais, c'est kaku, c'est le même verbe. Dessiner et écrire, c'est le même verbe. C'est pas le même caractère, mais c'est la même prononciation.
Ouais.
Et on écrit un dessin, effectivement, ou une peinture, comme on écrit un haïku,
ouais,
quoi. C'est-à-dire avec de l'encre noire. Sur un fond blanc. Alors, ce qu'elle offrait, en fait, cette peinture, c'est quoi? C'est une transparence. Moi, j'ai fait beaucoup de peinture à l'huile. Hein. Et la peinture à l'huile, j'ai fait de l'aquarelle aussi, beaucoup. Mais enfin, la peinture à l'huile, c'est vraiment, c'est un écran. C'est un obture. On peut pas aller derrière.
Ah,
ouais. On est obligé de rester devant. Il n'y a pas vraiment de profondeur, enfin, à mon sens, hein, toujours, je parle en mon nom. Et pour moi, il n'y a pas non plus de spiritualité qu'offre le sumi-ie en particulier,
oui.
Puisque c'est quand même un art qui est tout à fait calqué sur la philosophie du bouddhisme zen. Hein.
Oui, la pratique artistique, c'est une quête spirituelle d'ailleurs pour vous, j'imagine.
Oui, bien sûr.
Oui.
Bien sûr. Bien sûr, c'est moi, vous savez, j'ai une chance inouïe. C'est que je suis là devant mon jardin japonais, que j'entretiens toute seule.
Oui.
Mais j'aime le faire. Et puis, en fait, il n'y a pas beaucoup de jardiniers qui savent le faire, en tout cas, tel qu'il doit être fait. Voilà, et je vis dans ce monde-là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'ai
oui.
Mon jardin japonais, j'ai mes auteurs de haïku, j'ai mon encre. J'ai parfois un peu honte de le dire, mais j'ai une vie extrêmement sereine.
Oui.
Et dans un monde de fous, comment dire. et voilà, quoi. Alors, voilà, enfin, si vous voulez, sumi-ie et haïku sont bien superposables. Hein.
Oui.
C'est quand même deux chemins totalement identiques. Et voilà, alors bon, j'ai fait, évidemment, j'ai traduit Bachot, comme vous savez, oui. Donc la Santé étroite du bout du monde, qu'avait traduit Cifer d'ailleurs, qu'avait très bien traduit Cifer. Et puis Nozarashi Kiko, voilà, ces deux journaux de voyage très, très importants. Bon, j'ai commencé en 2004 hein, ouais. avec Bachot. J'ai sorti un compte d'auteur, La Santé étroite donc, du bout du monde, ouais. Et puis Nozarashi Kiko en 2005. Ouais. Donc ça fait comme une paille, hein, ça fait 15 ans, quoi. Ouais. Je peux vous assurer qu'à ce moment-là, Bachot n'avait pas la cote oui. internationale qu'il a aujourd'hui.
Oui, le haïku est devenu extrêmement populaire partout, hein. C'est incroyable.
Ah oui, oui, d'ailleurs, ça fait partie de notre vocabulaire oui. maintenant. D'ailleurs, on y met un S, ce qui me choque
oui.
un peu. Bon, mais enfin... voilà, ce qui prouve bien qu'on l'a adopté puisqu'on lui met un S.
Est-ce qu'on peut parler de Osai pour finir? Donc, vous venez de lui consacrer un livre en qualité donc de
oui,
peintre
alors,
de Haïga.
Oui. Alors, évidemment, de haïkiste en haïkiste, j'ai fini, oui. mais de façon très intuitive, hein, de partir donc, à la rencontre de Osai. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2008... je suis allée à Matsuyama, donc je finissais le livre sur Santoka, hein, oui. puisque j'ai fait un troisième livre
oui.
qui s'appelle donc Santoka dans le bol du mendiant. Santoka que j'adore aussi, c'est vraiment, je vénère Santoka, Osai, Tokuboku,
ah, oui, Tokuboku
enfin
ouais.
tous ceux qui sont dans la mouvance oui. de la nouvelle tendance. Hein. Et donc j'ai acheté là à Matsuyama lorsque je suis allée voir Isoan, donc l'ermitage où est mort Santoka. Je suis allée dans une librairie et j'ai acheté les œuvres complètes de Osai. Et là c'était le premier déclic où je me suis dit Osai, il faut que j'aille voir. Encore une fois de façon très intuitive
ouais.
parce que je connaissais pas, voilà. J'avais juste entendu, peut-être à l'une ou l'autre occasion, voilà. Et donc, pendant 10 ans, j'ai parcouru un chemin qui m'a permis, petit à petit, d'approcher, de découvrir le monde de Osai. Et j'ai fini par arriver à Shodoshima, donc là où il a passé les ouais. derniers mois de sa vie, dans son ermitage Nangohan, donc. Et là, j'ai eu la même démarche que pour Santoka. Quand je m'intéresse à un auteur, j'aime bien connaître sa vie, j'aime bien voir... j'avais fait pareil pour Bachot, j'avais
oui.
fait une partie de La Santé étroite
ah,
du
oui.
bout du monde. J'aime bien voir les endroits où ils ont vécu, quand ils parlent au Osai du petit chemin devant son ermitage, j'ai vu ce petit chemin.
Oui.
J'ai vu le cimetière dont il parle beaucoup dans son,
oui.
dans son livre.
Il y a de très beaux poèmes sur le cimetière, oui, oui.
Voilà, et je suis allée dans le cimetière, je suis allée sur sa tombe, j'ai versé de l'eau sur sa stèle. On doit verser de l'eau parce que, comme chacun sait, c'était un gros consommateur de saké.
Oui, 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 ça... Comme Santoka.
Comme Santoka d'ailleurs. Mais on en parle beaucoup plus
ouais.
à propos de Osai qu'à propos. Alors Santoka, il était parfois, on le ramassait ivre mort
ouais.
sur la chaussée. Hein.
Ouais.
Mais Osai, si vous regardez Internet, et ça m'exaspère, il y a des niaiseries qui sont. On parle de ça. Voilà. Ouais. Des niaiseries du style oui, il était ivre toute la journée. Non, il n'était pas ivre ouais. toute la journée. Il était quand même suffisamment lucide pour écrire de temps en temps de très jolis haïkus.
Ouais.
Mais enfin, voilà quoi. Et comme en plus, à ce moment-là, il n'y avait pas de traduction, à mon avis, toujours, ça ne concerne que moi, de traduction satisfaisante. Hein, pour beaucoup, les traductions sont des fragments de prose, comme ce qu'on évoquait tout à l'heure. Je trouve ça assez navrant. Mais en même temps, je comprends. Je comprends parce que c'est l'écriture de Osai est d'une telle simplicité,
ouais.
d'une telle brachylogie qu'il est extrêmement difficile de traduire.
Ouais.
C'est il y a souvent pas de sujet, il n'y a pas de préposition, il y a pas et j'ai eu la chance de rencontrer enfin la ville de Tonosho m'a fait rencontrer un spécialiste de l'œuvre de l'œuvre poétique de Osai et quand je lui ai posé des questions, bah souvent il me répondait ah mais c'est comme vous voulez. Ouais, bon, très bien. Ça n'avance pas beaucoup, mais si vous le dites, ma foi, ce sera comme je veux. voilà. Et c'est en plus une simplicité d'écriture qui paraît banale aux yeux de beaucoup, beaucoup de lecteurs, en tout cas aux yeux de tous ceux qui sont prisonniers d'un certain maniérisme littéraire.
Alors, je sais que Ken Estouat, qui était un grand connaisseur du haïku, avait très bien expliqué, il disait que le haïku, c'est très simple, mais il est très difficile d'entrer dans cette simplicité.
Absolument. Mais de toute façon, c'est très vrai pour n'importe quoi dans notre esprit occidental.
Oui.
Ah, ça, c'est vrai, moi, je vois bien avec le soumier, avec mes élèves, enfin, etc. Alors, bon, il manque un petit trait. Ah, bah, le trait de la tige va pas jusqu'à la fleur. Alors, on rajoute le petit bout qu'il a... Mais enfin, tout le monde sait qu'une fleur ne vit pas en lévitation autour des tiges. C'est pas la peine. Vous voyez ce que je veux dire ? Notre esprit cartésien est tellement fort qu'on n'arrive pas à s'en défaire. Parce qu'on n'arrive pas à dire, à comprendre que lumière éteinte, c'est la même chose que la lumière est éteinte. On a besoin de toutes ces mais c'est notre culture, hein. Alors pour s'en débarrasser, c'est sûr que c'est pas facile, hein. Et la traduction du coup de Hosai est d'autant plus difficile que lui, il est allé vraiment à la limite du minimum du minimum.
Oui, comme sans aucun, vraiment d'une simplicité. C'est-à-dire qu'ils ont révolutionné le genre en supprimant ce qu'on appelle les mots de saison, en supprimant évidemment le 5, 7,
la métrique. La métrique. Bien sûr.
Et là, on est dans une nudité. Je ne sais pas, si on entre dans l'univers de Hosai, c'est tout à fait fascinant et captivant. On est avec lui, je trouve.
Complètement, complètement. Moi, je dis, c'est mon double. Enfin, c'est très osé ce que je dis là. C'est très prétentieux, en tout cas. Mais par contre, alors Santoka, lui, il travaillait la musique, la répétition. Wakaitemo, wakaitemo, aoyama. Oui, il y a une espèce, il y a un rythme dans les sons, dans la musique. Et ça, il l'a cultivé, mais de façon absolument magistrale. Et tous, en tout cas, ils avaient un point commun, c'est qu'ils prétendaient, en tout cas, Santoka l'a écrit, en tout cas, bien fort, tout ce qui n'est pas réellement présent dans notre cœur ne relève pas du haïku.
Oui, c'est-à-dire que les vertus poétiques sont des vertus morales. La sincérité, l'authenticité, voilà, des choses qui engagent la personne.
Bien sûr, bien sûr. Et en même temps, ce qui est assez fascinant chez Hosai, c'est que à la rareté des mots, c'est quand même pendant une richesse émotionnelle extraordinaire.
Oui, tout à fait,
Pour ceux qui savent voir, ça y est, un proverbe japonais qui dit voir et voir sont deux choses différentes. et ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire, il faut, je dirais, écouter avec les yeux, voir avec les oreilles. Il faut avoir en tout cas, l'intelligence du cœur, ça c'est sûr. Et un sens de l'inattendu, vous voyez, de se laisser surprendre par toutes ces petites choses de notre quotidien. Moi, je sais que j'ai un bouton de fleurs qui va s'ouvrir alors que ça fait 3 ans qu'elle m'a pas fait de fleurs. Je suis là et je suis prête à la remercier. Enfin, je me dis...
Oui, ça instaure un autre rapport, finalement, avec la création, avec la nature. Et,
complètement. Hein, complètement. Moi, je n'écrase pas les mouches. Je sors les araignées de la maison. Je trouve que on a cette chance incroyable d'avoir toute cette vie autour de nous. Et ça, c'est une grande caractéristique de Hosai. Oui. C'est son attachement à tout ce qui vit. Pourquoi ? Parce que lui, il avait une sensibilité exacerbée par rapport à la mort. Et ça, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a une place très 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 particulière dans le cœur des Japonais et au panthéon de tous les haïkistes. Parce que le bouddhisme veut qu'on prenne la mort comme un passage, enfin quelque chose d'assez léger finalement. alors que lui, il avait cette sensibilité exacerbée par rapport à la mort. D'ailleurs, quand on lit, il faut lire à travers ses mots, hein, quand il dit, par exemple, il y a un moment donné dans un texte, il dit « Ishiyama, montagne de pierre », enfin, etc., il parle des pierres tombales. Ouais. Le cimetière, il y allait pratiquement tous les jours. Et il écrit d'ailleurs, ben, je ne sais pas si vous avez lu le livre.
Ah bah absolument, oui, lu et relu, bien sûr.
dans son texte, il parle de ça. Enfin, il dit.
Il nettoie les tombes aussi, ouais.
Oui. Oui, ben, les tombes, il dit quoi, ouais. C'est des pierres mortes, il y a la mort dessus, la mort dessous. Enfin, oui, il est. Et du coup, cette sensibilité-là l'a rendu extrêmement. Comment dirais-je ? Extrêmement attentif, ouais. À tout ce qui peut... Il écoute même les petites choses qui ont l'air de ne rien dire. Ouais. Enfin, vous voyez, c'est quand même assez fantastique. Ouais. Quoi, je veux dire, d'avoir cette acuité-là, cette disponibilité d'esprit, c'est fou, quoi. Ouais. Et bon, donc, moi, je dis... Enfin, c'est ma façon de le présenter. Je dis, en fait, Osai, ben, c'est un entomologiste des petites choses de la vie qu'il écoute, voilà, et qu'il traduit dans une mouvance du haïku, donc la nouvelle, fameuse nouvelle tendance, hein. Tout comme Shiki, tout comme Santoka, ouais. Takuboku, enfin, etc. Et pour moi, Osai fait partie et l'une des très, très grandes figures de la poésie, je dirais même pas japonaise, ouais. Je dirais de la poésie en général. Ouais. Évidemment, il faut pouvoir avoir accès à la traduction, puisque tout le monde, évidemment, ne comprend pas le japonais. Hein.
C'est désormais le cas, hein, avec ces haïkus du bout du monde. Ouais. Je vous rappelle qu'ils sont publiés chez Synchronique Édition. Hein, pour se le procurer, il suffit tout simplement de taper Synchronique Édition sur votre moteur de recherche et ce sera, vous le procurer très, très rapidement. Manda, je parlerai des heures avec vous.
Mais je vous en prie, merci de m'écouter en tout cas. Ce que je voulais juste encore ajouter, oui. C'est que le faire découvrir ce poète au public francophone, c'est vraiment le projet, je crois, de toute ma vie qui ouais. me tient le plus à cœur. Hein. Bon, de plus, j'ai été très honorée puisque Sa Majesté l'Empereur du Japon, je ne sais pas si vous le savez, le 3 novembre 2017, m'a conféré l'Ordre du Soleil Levant Rayon d'Or et d'Argent, qui est une distinction absolument prestigieuse. Ouais. Et j'ai donc, vis-à-vis de cet honneur, j'ai un devoir ouais. d'être à la hauteur.
Vous voilà. Vous sentez redevable. Mais vous l'êtes tout à fait, Manda.
Je ne sais pas si je le suis, en tout cas, j'essaye.
Merci beaucoup. On va écouter très rapidement un peu de musique et puis je vais lire quelques haïkus, extraits donc de Haïku du bout du monde, les haïkus de Osai, illustrés, traduits par Manda. C'est un livre qui est magnifique, en plus qui est très très beau. Il est très beau à regarder, à lire, enfin bref, c'est un livre qu'on garde auprès de soi. Merci beaucoup.
Ben, merci à vous.
Accueilli par une fillette de l'île, me voici. Accueilli par une fillette de l'île, me voici. Ami d'un ermite, amateur de saké, la lune, un rond parfait. Venu de loin, rendu, m'empresse d'écrire une lettre. combien d'allumettes soufflées sous le vent de la mer nous parlons. Feu d'artifice dans le ciel, à l'aplomb des lumières, la ville, bien là. Shoji, grands ouverts, je sors acheter des petits poissons. Nuages de fumée, du bout de sa pipe, un homme m'indique le chemin. À la recherche d'un travail, j'arpente la ville, que des gens qui vont et viennent. Maisons imbriquées. Arrivé en ville, le cri d'un marchand. Sur un toit douillet, quelqu'un s'affaire. Bon, bon, sous l'épais toit de chaume, les battements d'une horloge. Un œuf acheté dans chaque manche, retour à l'ermitage. Le grand pain, une maison pour les moineaux, mon logis, l'ermitage. Le vent souffle, lui fait mes dévotions. Courir, filer dans le vent. Après la tempête, le ciel bleu, tout bleu. Surgit des feuilles, la fleur du lotus en son matin. Gravit la colline, à perte de vue, des villages désolés. À flanc de coteau, un champ, un pain unique et du blé qui bleuit. Tard levé, propulsé par la ville, la lune, là, suspendue. Mer, rien qu'un ruban. Bien exigu, l'unique fenêtre. Au point du jour, sur la plage, face à mon visage. Suivi par un chien, ne sait depuis quand, j'arpente le bord de mer. Mes jambes blanches, les étangs sur la plage. Belle matinée, une clochette, un pèlerin. Voilà, c'était vraiment quelques petits extraits de ces haïkus du bout du monde de Osai, illustrés par Manda, traduits par elle, et qu'on peut se procurer à Synchronique Édition. Un peu de musique, et ce sera au tour de Claude Verset de nous offrir son coup de cœur mensuel.
She should've known better than to give her heart. She should've.
Vous venez d'écouter Joan of Arc de Orchestral Manoeuvre in the Dark. Bah oui, il n'y a pas. Après tout, interdit d'écouter de temps en temps un peu de pop anglaise sur la route inconnue. Je vous avais promis Claude Verset. Le voici qui arrive.
Le nom de Marc Legros est attaché durablement à cette éloge de la palourde publiée une première fois en 1996 chez Flammarion. Souvent repris aux éditions de l'Escampette, par exemple, et vers lequel ont convergé laurier et appréciation volontiers dithyrambique, au point de faire de l'ombre sur le reste de sa production. Publié en général, il est vrai, chez de petites structures telles les éditions Samuel Tastette, où viennent de paraître les poèmes de l'amour double, qui seront l'objet de cette chronique. Possible qu'un tel ouvrage, ces poèmes de l'amour double, perturbe le ronronnant consensus habituel. Eh bien, tant mieux. Et en particulier, la deuxième section du livre, dans sa crudité, et dont le sous-titre « Journal d'un stomisé » dit davantage le titre lui-même avec son ironique double sens « Petit poème de poche ». Et il pourrait bien en effet reprendre à rebrousse-poil le bon goût de certains. Mais quoi ? A-t-on envie d'objecter ? C'est la vie, non ? Et pourquoi n'en évoquerait-on pas la fin avec la même verve ? Et de verve, Marc Legros ne manque pas. La même verbe que les années enfantines ou les premières galipettes amoureuses. Le dernier acte est sanglant, est-il rappelé, selon les mots de Blaise Pascal. Dès lors, il est légitime d'en suivre chaque poème sans se payer de mots. Poème. Ma chevelure de lion, finito. Ma denture d'acteur, finito. Même ma bite qui tint gentiment sa partie, ciao bella, remplacée par un robinet en plastique. Et quoi encore maintenant ? Manquerait plus que je perde la tête. En troisième partie, les cartes postales, 21 plus 1, envoyées de Lamalou-les-Bains, ne sont dans le genre pas mal non plus, rayon autodérision. Aussi bien que rayon vacherie adressé à ses semblables, autrement dit semblablement ou autrement handicapé. Citation, avec Parkinson et Charcot, on ne rigole pas. En ce séjour de cure. On dira, pour rester dans le ton, que Marc Legros n'a pas la langue dans sa poche. Moi, décidément, je résiste aussi mal que lui à des blagues à deux balles. On s'emmerde tellement à Lamalou qu'on bouffe comme des cochons et que forcément on grossit. La prise de poids, pourtant, c'est pas vraiment fameux pour l'arthrose du genou. Mais la chair est faible. Alors, la tête de veau sauce gribiche, la gardiane de taureau, elle est sèche à la rouille. Peut-être est-il temps d'observer que le ronchon n'en oublie cependant pas ses préoccupations de poète. Les poèmes de ces deux dernières parties sont écrits sous la forme de 8, et dont un, la première partie, intitulée « Site transit », et toute cette poésie vérité s'inscrivant sous le patronage discret de Georges Perros. Quelques vers dorés, quelques chants pour que brille la cendre. Les 29 onzains de Site transit sont assurément de ceux qu'apprécieront mieux les âmes sensibles et les amoureux les plus distingués de la poésie. Il est vrai qu'on n'y parle que de la mort, qu'on y médite noblement sur le néant, le crâne posé là avec ses grands yeux, c'est une citation, l'ossuaire et ses tibias, voilà qui rassure. Alors, un dernier poème. Le visage des vieillards, souvent, ressemble au paysage. La bêche et le râteau ont passé sur le jour, effacé la mémoire de l'herbe, rongé l'audace. Seul, comme rendu à la terre, parfois remonte une bille d'enfance. Ce sont leurs yeux qui brillent encore. Eh bien, ce sera, vous le savez, la dernière chronique de cette année poétique et radiophonique qui se décalque sur l'année scolaire. Son objet en était les poèmes de la mort double de Marc Legros chez Samuel Tastet, éditeur. Alors, à l'année prochaine. Bon, on peut le penser. Allez, bel été à toutes et à tous.
Merci Claude, bon été à toi. Allez, on arrête de se vouvoyer devant les auditeurs alors qu'on se tutoie en privé. Bon été à Claude Verset qu'on retrouvera bien évidemment dès le mois de septembre. Ce sera aussi le cas de Cécile Guivarch et de Patrick Jockel dont je vous propose d'entendre eh bien, en enfilade les chroniques car il nous reste très peu de temps. Il me reste tout simplement à vous souhaiter de passer un excellent été. C'était la dernière de La Route Inconnue. Et puis, nous nous retrouverons bien évidemment au mois de septembre. Mais il y aura de la poésie hein, tout au long de cet été. Soyez bien attentifs tout au long de cet été sur les ondes de Radio Rancière. Allez, bisous, à la rentrée.
Bonjour Christophe, bonjour à tous. Donc, gros coup de cœur pour un livre de Sylvie Fabre-Gé qui est paru à L'Herbe qui tremble et qui s'appelle « Pays perdu d'avance ». Donc c'est un livre de deuil, de mémoire, d'exil. Ça commence un peu dans cet esprit quand la lumière tombe, qui se répète de poème en poème pour dire la lumière du jour, la lumière de la vie. Mais la lumière qui décline, et cette lumière, c'est celle de la mère de l'auteur. Elle écrit par exemple « Quand la lumière tombe, que tombe ta mère dans la tombe ?» Je suis vraiment très touchée par ces poèmes qui sont le livre se décline en fait en plusieurs parties. Il y a une première partie avec des brefs poèmes et dans une deuxième il y a un récit qui se déroule qui raconte en fait les souvenirs d'enfance et d'exil que Sylvie Fabre-Gé relate ici dans ce livre. C'est écrit avec une grande finesse par en fait une vieille enfant. C'est ainsi qu'elle se décrit, Sylvie Fabre-Gé, comme une vieille enfant. Alors il y a le temps du deuil, mais il y a aussi le temps où l'on prend conscience que même si le corps s'en mêle à la terre, que c'est dans cette terre aussi que peut s'étendre le règne éternel. Il y a l'acceptation du deuil, car la mort, c'est, comme elle l'écrit, reposer la vie et risquer, en fait, aussi l'effondrement. Alors, les souvenirs remontent, mais surtout les origines, avec les maisons natales de ta langue, comment ainsi continue la lampe de la vie. Ce n'est qu'une fois en fait que le deuil est suffisamment avancé que Sylvie Fabre-Gé s'éloigne de la tombe et fait un retour à l'enfance, mais aussi dans un autre pays, celui de l'exil, ce pays de sa mère. Elle évoque comment sa mère est venue du grand pays, comment c'était une hirondelle, c'est une très belle image, et comment l'arbre s'éloignait. Au-delà d'un livre de deuil, c'est aussi un livre qui sous-entend les blessures de l'éloignement, que ce soit par l'exil en partant d'un pays, mais aussi en quittant la vie. Les souvenirs de son enfance passent donc par des notions très fortes, telles que les origines, la transmission, parce qu'il est aussi beaucoup question des femmes et des générations, et de tout ce qui se transmet, qui se véhicule grâce à la mère, non seulement les gestes, l'histoire, mais aussi le bonheur, par exemple, et la lecture et les livres. Elle écrit « Dans la bibliothèque de ma mère, les livres étaient comme des lampes que je tenais dans mes mains. » Il est beaucoup question de couleurs aussi dans ce livre, des couleurs pour dire la vie ou pour dire aussi la mort. Et la langue maternelle occupe une place très importante, qui est assez enracinante. Sylvie Fabre-Gé évoque comment un enfant né de l'exil se sent ainsi lié à cette langue, à cette autre langue, la maternelle, mais aussi la langue du pays où l'on vit. Donc elle écrit « La langue seule ne fait pas le printemps. Pour exister, j'avais besoin d'images, de sonorités imprononcées. » Ainsi, donc, ce livre, « Pays perdu d'avance », pourrait tout aussi bien représenter le pays maternel, ou l'exil, ou l'enfance, un pays rêvé, serait-il pas, après tout, quelque chose de plus intime et familial? Le pays ne serait-il pas aussi la mer? Donc, c'est vraiment une langue très belle et une très belle construction pour ce livre en trois parties. Dans la forme et dans le fond, hein, tout est très beau. L'écriture de Sylvie Favreger n'est pas unique. On voit dans ce livre qu'elle a en fait plusieurs écritures. La lecture est vraiment très agréable, jamais monotone. C'est une écriture imagée, assez lyrique. Et le souvenir semble s'être écrit dans un élan pour en fait faire un magnifique hommage et peut-être porter une mission, comme elle l'écrit, « Laver le linge du temps à Monou ». Donc c'est un livre que je vais, de mon côté, garder à portée de main pour y revenir de temps en temps. Je vous en lis un petit extrait. « Qui parle pour dire la présence ? Dans le ciel et l'ombre du ciel sur la terre, telles les saisons, les mers passent, et les mots, pour ne pas oublier. Peut-être n'avons-nous qu'une voix, du berceau au tombeau. De la mémoire m'arrivent des fragments. Maison sous le Vercors, lampe et livre, vieille femme, jeune mère, autant de noms qui peuvent s'accorder à l'enfance. Mais le père, le lilas et l'oiseau, les douleurs, les extases, comment les retrouver ? Donc voilà, c'était un livre de Sylvie Favreger qui est paru aux éditions de L'Herbe qui tremble et qui s'appelle « Pays perdu d'avance ». Donc, je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Eh bien, bonjour. Nous allons repartir aujourd'hui avec la boucherie littéraire, un petit recueil de poèmes de Mireille Dizdereau qui s'intitule « Corrosion ». C'est un livre qui a été écrit à Bangkok et en Asie pendant les années où Mireille habitait dans ce pays et visiter les autres pays. Donc Corrosion, entendons-nous bien, ce n'est pas un guide touristique ni un carnet de voyage. Non, ce serait plutôt un livre d'amour. Un amour qui appelle et dont l'envol permet de traverser la planète. Amour d'un homme, amour d'un pays, d'un continent, la Thaïlande, l'Asie, que l'on découvre au fil des mots comme on suit en filigrane cette histoire d'un amour humain. Des poèmes, des petites proses pour jalonner ces années asiatiques. Un livre de silence aussi. Voyageuse avec des yeux d'enfant et les mots restent en suspens. Trouvent une place sur le papier, un carnet, un cahier, dans le temps, l'humidité a effacé quelques lignes, quelques dates. Peu importe, on est là dans ces pages avec ces couleurs, des paysages, des odeurs, des sourires. Des moments que l'on retrouve dans cet ailleurs, que l'on oublie dans le quotidien, jusqu'à ce qu'un livre vienne nous rappeler que vivre, c'est aussi demeurer cet enfant curieux et attentif au monde. Que ce monde soit celui de tous les jours ou celui du voyage à l'étranger. Le voyage, qu'il soit d'un jour ou d'année, on en revient transformé, enrichi. Et les pages d'un livre permettent ainsi le partage. Un premier extrait. D'eau à la lumière, tiède comme un fruit de jacquier, tu dérives lentement vers autre chose que toi-même. Est-ce qu'on sait vraiment qui on est ? Instinct d'océan, Bangkok, octobre 2012. Au-delà de ta peau existent d'autres sensations. L'été quelque part et l'automne là-bas. Où sont les mains, les bras, les silences ? Une année glisse sur les rails du Skytrain. Des visages d'anges perturbent le paysage, et c'est le soir. À peine le temps de rêver qu'un orage s'incruste en toi et revient, chargé d'odeurs qui éveillent l'instinct d'océan. Nouvel an chinois, 10 février 2013, Bangkok, premier jour du serpent d'eau. Les bougies et l'encens brûlent dans nos esprits. calmée par la première pluie de l'année. Avec le vent, elle parle, frappe, nettoie et emporte ce qui reste derrière soi. Avec la pluie à Bangkok, tout peut arriver. L'infiltration, l'inondation, l'illumination et le premier jour de l'année. Les bougies avec l'encens brûlent pour les absents. Ma mère enterrée dans sa pierre solitude, un amour violé par les plissements de la montagne, le serpent, pensif et sage au bord des clongs, attend nos vies fragiles comme du papier de soie. J'ai parlé avec Kim, 17 ans. Je voulais savoir, j'étais à nouveau seul, à l'écoute du monde. D'où es-tu? Isan, la campagne. Kim, chef de famille, sa prière à Bouddha pour être forte, jamais malade. Kim consomme le yaba pour brouiller la réalité des gros corps lourds, chair molle, regard halluciné des pharynges riches ou aisés et vieux, souvent gentils, parfois vicieux. Kim accepte et redresse le menton. Ne jamais perdre la face, même affalé dans la poussière, sous les couches de transpiration des hommes, visage pâle ou visage rouge, sexe fort ou sexe malade, restez digne, restez taille. Quand le travail est fini, le petit matin a un faux air de paradis. Kim le prend, toujours ça de gagner sur l'éternité avec la fatigue. La ruelle sent la fraîcheur du jet qui lave. Elle aimerait qu'on la nettoie aussi, mais ça ne part jamais. L'odeur a pénétré jusqu'au cœur. Alors il reste le yaba. Tout est littérature après ça. Bangkok, Thaïlande. Donc le yaba, c'est une drogue. Les pharynges, ce sont les hommes blancs, les occidentaux. Voilà, donc c'était Corrosion, un livre de Mireille Guisdereau qui maintenant habite en Provence. Et c'est édité à la Boucherie littéraire. Et avec cette idée de voyage, je vous souhaite de bonnes vacances.